Chapitre 5. En péagisant. 1. Roland gagna l'extrémité du quai, dégageant d'un coup de pied au passage des débris de métal rose. Arrivé à hauteur des marches, il s'arrêta et, se retournant, les regarda d'un air sombre. D'autres cadavres. Préparez-vous.
Il ne coule pas, hein ?
Demanda Jake. Roland tiqua, puis son visage s'éclaira en comprenant ce que Jake voulait dire.
Non, ils ne coulent pas. Ils sont secs.
Alors ça va ?
Dit Jake. Mais il tendit la main à Susanna, qu'Eddie portait pour l'instant. Elle lui sourit et noua ses doigts autour des siens. Au pied de l'escalier conduisant au parking des banlieusards sur le côté de la gare, une demi-douzaine de cadavres étaient affalés comme une gerbe de blé en vrac. Deux femmes, trois hommes. Le sixième était un bébé dans une poussette. Un été passé exposé aux intempéries et à la merci potentielle des chats errants, ratons laveurs ou autres marmottes, avait doté le nourrisson d'un air de sagesse mystérieuse. Celle d'une momie enfant découverte dans une pyramide inca. Jake déduisit de sa barboteuse bleu fanée que c'était un garçon, sans qu'il fût possible de l'affirmer avec certitude. Dépourvu d'yeux et de lèvres, sa peau ayant viré au gris noirâtre, déterminer son sexe était une sinistre plaisanterie. Pourquoi le bébé mort était-il passé de l'autre côté ? Parce que le poulet s'est chopé la supergrippe. Mais même dans son état, le nourrisson semblait avoir traversé les mois de désolation post-fléau à Topeka mieux que les adultes des alentours. Eux n'étaient guère plus que des squelettes chevelus. Entre ce qui avait été autrefois ses doigts et n'était plus qu'un ramassis d'eau tendu de lambeaux de chair, l'un des hommes agrippait la poignée d'une valise semblable aux Sansonites des parents de Jake. Comme le bébé, et comme tous les autres, il n'avait plus d'yeux. Il fixait Jake de ses orbites sombres et profondes. Au-dessous, une rangée de dents jaunâtres s'avançait en erectus querelleur.
« Pourquoi t'as mis si longtemps, mon garçon ?»
semblait demander le mort à la valise.
« Tu m'as fait poireauter, et l'été a été si long et si chaud. »«
Où vous espériez aller comme ça, les mecs ?»
se demanda Jake.
Où donc, dans cette merde super merdique, vous pensiez que vous seriez à l'abri ? Des moines ? Sioux City ? Fargo ? Sur la lune ?
Ils descendirent les marches, Roland en tête, les autres derrière. Jake tenait toujours Susanna par la main, ôté sur ses talons. Le bafouilleux au long corps semblait descendre chaque marche en deux étapes, comme un semi-remorque franchissant des gendarmes couchés.
« Ralentis, Roland, » dit Eddie. « Je tiens à vérifier les espaces handis avant qu'on aille plus loin. On pourrait avoir un coup de peau. »«
Espaces handis ?» demanda Susanna. « Qu'est-ce ? »
Jake haussa les épaules. Il n'en savait rien, pas plus que Roland. Susanna reporta son attention sur Eddie.
« Je te demande ça, chouchou, parce que ça m'a l'air un poil désobligeant. »
Tu sais comme appeler les blacks nègres ou les gays tantouses. Je sais que je suis rien qu'une pauvre négrillonne ignorante de 1964, année obscurantiste entre toutes, mais là, fit Eddie, montrant du doigt des panneaux délimitant la partie du parking la plus proche de la gare.
En fait, il y en avait deux par pilier. Le haut de chaque, bleu et blanc, le bas, rouge et blanc. Quand ils s'en approchèrent, Jake vit que celui du haut portait le symbole d'un fauteuil roulant, celui du bas, l'avertissement suivant. L'utilisation abusive des espaces réservés aux handicapés est punie de $200 d'amende, strictement sous le contrôle du département de police de Topeka.
« Voyez-moi ça !» s'exclama Susanna triomphalement. « Ils auraient dû faire ça depuis longtemps ?» De mon camp, on s'estimait drôlement vénard si on arrivait à faire franchir à son fauteuil autre chose que les portes du monde piété. Ah ça oui, merde ! Drôlement vénard si on arrivait à le faire monter sur le trottoir. Quant à des places de parking réservées, valait mieux pas y penser, mon chou.
Le parking était plein comme un œuf, ou quasi, Mais même avec la fin du monde à portée de main, seules deux voitures sans petits fauteuils roulants sur leur plaque d'immatriculation étaient garées dans ce qu'Eddie avait appelé les espaces Andy. Jake subodora que respecter les espaces Andy faisait partie de ces choses ayant une mystérieuse et durable emprise sur les gens, comme ajouter le code postal sur les lettres, se faire l'arrêt au milieu ou se brosser les dents avant le petit déjeuner.
« Et le voilà !» s'écria Eddie. « Vérifiez vos bulletins, les mecs. Je crois bien qu'on a décroché le gros lot. »
Portant toujours Susanna sur sa hanche, chose qu'il aurait été incapable de faire sur une longue période, il y avait à peine un mois de ça, Eddie se précipita vers une grosse Lincoln. Fixé par des courroies sur le toit, on voyait un vélo de course plutôt compliqué, et du coffre entrouvert dépassait un fauteuil roulant. Mais ce n'était pas le seul. En scrutant la rangée d'espace Andy, Jake aperçut minimum quatre autres fauteuils roulants, la plupart arrimés sur les galeries, d'autres fourrés à l'arrière de fourgonnettes ou de breaks, et un à l'aspect antédiluvien et volumineux à faire peur, jeté sur le plateau d'un pick-up. Eddie déposa Susanna et se pencha pour examiner l'appareillage qui maintenait le fauteuil dans le coffre. Il avait son lot de sandaux entrecroisés, plus une barre de blocage. Eddie sortit le Ruger que Jake avait pris dans le tiroir du bureau de son père.
« Tirons dans le tas !» dit-il gaiement.
Et avant que les autres aient eu le réflexe de se couvrir les oreilles, il appuya sur la détente et fit sauter le verrou de la barre de sécurité. Le bruit de la détonation roula dans le silence avant que l'écho ne le renvoie. Le gazouillis de la tramée revint avec lui comme si le coup de feu l'avait réveillé en sursaut. « Hein, qu'on dirait de la musique hawaïenne ?» songea Jake avec une grimace de dégoût. Une demi-heure plus tôt, il n'aurait jamais imaginé qu'un son pouvait être aussi dérangeant physiquement que, disons, l'odeur de la viande pourrissante. Mais il l'imaginait très bien maintenant. Il leva la tête vers les panneaux de l'autoroute à péage. Sous cet angle, il n'en voyait que le haut, mais ça suffisait à lui confirmer qu'il tremblotait à nouveau. « Ça doit émettre une sorte de champ magnétique, » se dit Jake. « Un peu comme les mixeurs et les aspirateurs expédient des parasites dans la radio ou la télé, ou comme ce cyclotron en gadget m'a fait dresser les poils des bras quand Mr. Kingery l'a apporté en classe et a demandé des volontaires pour qu'ils viennent au tableau se mettre à côté. » Eddie tordit la barre de sécurité et, s'aidant du couteau de Roland, trancha les sandaux. Puis il retira le fauteuil du coffre, l'examina, le déplia et engagea la tige de support à hauteur du siège.
« Et voilà !» dit-il.
Susanna, qui avait pris appui sur une main, Jake trouva qu'elle ressemblait un peu à la femme de ce tableau d'Andrew Wyatt qu'il aimait tant, le monde de Christina. Contemplait le fauteuil avec stupéfaction.
« Dieu tout-puissant qu'il a l'air petit et léger !»« C'est ça, les raffinements de la technologie moderne, ma chérie !» dit Eddie. « C'est pour ça qu'on s'est battu au Vietnam. Allez, saute-moi là-dessus. »
Il se baissa pour l'aider. Elle ne lui opposa pas de résistance, mais demeura visage fermé et sourcils froncés le temps qu'il l'installe. Comme si elle s'attendait à ce que le fauteuil s'écroule sous elle, songea Jake. Ce ne fut qu'en caressant les accoudoirs de ce nouveau moyen de locomotion qu'elle se détendit à vue d'œil. Jake s'éloigna un peu à l'aventure, le long d'une autre rangée de voitures, laissant courir ses doigts sur leur capot, où il dessinait des traînées dans la poussière qui les recouvrait. Otté trottinait à sa suite, ne s'arrêtant que pour lever la patte et arroser un pneu, comme s'il n'avait rien fait d'autre de toute sa vie.
« Ça te donne le mal du pays, mon lapin ?» demanda Susanna dans le dos de Jake. « Tu as probablement cru que tu ne reverrais jamais une bagnole américaine, vrai de vrai, je me trompe ?»
Jake réfléchit à ce qu'elle venait de dire et décida qu'elle avait tort. Ça ne lui avait jamais effleuré l'esprit qu'il resterait dans le monde de Roland pour toujours, ni qu'il ne reverrait pas de voiture. Il ne pensait pas que ça l'ennuierait en réalité, mais il ne croyait pas non plus que c'était écrit. Pas encore, de toute façon. Il y avait un certain terrain vague dans le camp du New York d'où il était venu, au coin de la 2e avenue, et de la 46e rue. Il y avait eu là autrefois une charcuterie fine, Tom et Jerry, spécialistes en réception. Mais à présent, tout n'était plus que décombres, mauvaises herbes, débris de verre et une rose. Rien qu'une rose sauvage et solitaire poussant sur un terrain vague où on avait prévu d'édifier un ensemble d'appart en copropriété. Or, Jake avait dans l'idée que rien de comparable à la rose ne poussait ailleurs sur Terre. Même pas peut-être dans ces autres mondes auxquels Roland avait fait allusion. On trouvait des roses en approchant de la tour sombre, des roses par milliards sur des putains d'hectares à perte de vue, à en croire Eddie et son rêve. Cependant, Jake soupçonnait que sa rose différait même de celle-là, et que tant que le destin de la rose n'était pas scellé dans un sens ou dans l'autre, lui, Jake, n'en avait pas terminé avec le monde des voitures, des télés et des flics qui vous réclamaient vos papiers et le nom de vos parents. À propos de parents, j'en ai peut-être pas terminé avec eux non plus, songea Jake. Cette idée fit battre son cœur plus vite, d'espoir et de frayeur mêlés. Ils s'immobilisèrent au milieu de la rangée de voitures. Jake fixait d'un œil vide l'autre côté d'une large artère. Gage Boulevard, supposait-il, pendant qu'il tournait ses pensées dans sa tête. Roland et Eddie les rattrapèrent. « Ce bébé-là sera en super forme après un ou deux mois passés à pousser la Vierge de Fer, » dit Eddie avec un grand sourire. « Je parie que ça va te faire le souffle. » Et en guise de démonstration, il poussa une profonde expiration derrière le fauteuil roulant. Jake faillit objecter à Eddie qu'il y avait probablement dans les espaces Andis d'autres modèles à moteur, mais se ravisa en comprenant ce qu'Eddie avait dû piger tout de suite. Leur batterie devait être à plat. Susanna ignorait ce dernier pour le moment, c'est Jake qui l'intéressait.
« Tu m'as pas répondu, Lapinou? Toutes ces voitures te filent pas le mal du pays ?»« Non !»« J'étais juste curieux de savoir si je les connaissais toutes, ces bagnoles. » « Je me suis dit que peut-être, si cette version de 1986 provient d'un autre monde que celui de mon 1977, ça se verrait bien à un détail. Mais non. Impossible. Les choses changent vachement vite, même en 9 ans. »
Il haussa les épaules puis regarda Eddie.
« Toi, tu pourrais peut-être. Après tout, je veux dire, t'as vraiment vécu en 1986 ?»
Eddie grommela. J'y ai vécu, d'accord, mais je n'ai pas vraiment observé. Je planais à un max les 3/4 du temps.
Quoique, à bien y réfléchir.
Eddie se mit à pousser à nouveau Susanna sur le macadam lisse du parking, désignant du doigt les voitures au passage.
Ford Explorer, Chevrolet Caprice. Celle-là, c'est un vieux modèle Pontiac, ça se voit à sa calandre en deux parties.
Pontiac Bonneville, précisa Jake.
L'étonnement qu'il lisait dans les yeux de Susanna amusait Jake en même temps qu'il l'émouvait un peu. La plupart de ses voitures devaient lui sembler aussi futuristes que les vaisseaux de reconnaissance de Buck Rogers, ce qui, de fil en aiguille, lui fit se demander ce que Roland ressentait à les voir. Il le chercha des yeux. Le pistolero ne manifestait aucun intérêt pour les automobiles. Il fixait l'autre côté de la rue et par-delà le parc, l'autoroute à péage. Sauf qu'il ne regardait pas vraiment ces choses-là, d'après Jake. Ce dernier se dit que Roland était tout bêtement plongé dans ses pensées. Si c'était le cas, son expression suggérait que la chose était loin de lui être agréable.
« Et ça, c'est une de ces petites Chrysler K, » continua Eddie en la montrant du doigt. « Et là, c'est une Subaru. Là, une Mercedes 450 SL, excellente voiture. » Celle des champions, Mustang. Chrysler impériale, belle carrosserie, mais vieille comme Mathusalem.
Regarde, petit, fit Susanna avec une pointe d'âpreté dans la voix, trouva Jake. Celle-là, je la reconnais. Mais pour moi, elle vient juste de sortir.
Vraiment désolé, Susie. Celle-ci, c'est une Cougar. Une autre Chevrolet ou encore une Top EK adore General Motors, putain, tu m'étonnes. Honda Civic, Volkswagen Rabbit, une Dodge, une Ford, une...
Eddie s'arrêta face à une petite voiture blanche et rouge au bout de la rangée. Une Takuro, se dit-il à lui-même. Il la contourna pour aller examiner le coffre. Une Takuro Spirit, pour être exact. T'as déjà entendu parler de cette marque ou de ce modèle, Jake de New York ? Jake fit non de la tête. Moi non plus, dit-il. Moi non plus, bordel. Eddie se mit à pousser Susanna vers Gage Boulevard. Roland les suivait, l'air absent, enfermé dans son monde, marchant quand il marchait, s'arrêtant quand il s'arrêtait. Juste avant l'entrée automatisée du parking. Stop, prenez votre ticket. Eddie fit halte. Si on continue à ce rythme-là, on sera vu avant d'atteindre le parc là-bas et carrément mort avant le péage de l'autoroute, dit Susanna. Cette fois, Eddie ne s'excusa pas, ne paraissant même pas avoir entendu. Il regardait un autocollant sur le pare-choc d'un vieil AMC Pacer rouillé. L'autocollant, bleu et blanc, évoquait les panneaux aux petits fauteuils roulants qui indiquaient les espaces Andy. Jake s'accroupit pour mieux voir, caressant distraitement la tête dotée que ce dernier venait de faufiler sur ses genoux. Tendant l'autre main, il effleura l'autocollant comme pour s'assurer de sa réalité. « Kansas City Monarchs », lisait-on. Le haut de Monarchs était une balle de baseball agrémentée de lignes de fuite, comme si elle sortait du terrain. Corrige-moi si je me gourre, mon petit vieux, parce que j'y connais que dalle en baseball à l'ouest du Yankee Stadium. Est-ce qu'on devrait pas lire Kansas City Royals? Tu sais bien, George Brett et Tutti Quanti. Jay Copina, il connaissait les Royals et George Brett, bien qu'il débutât à peine du camp de Jake et ait dû être à deux doigts de la retraite dans celui d'Eddie. « Les Kansas City Athletics, vous voulez dire ?» fit Susanna, qui eut l'air abasourdi. Roland se tenait à l'écart de tout ça, il était en train de zoner dans sa couche d'ozone personnelle. « Pas en 1986, ma chérie, » dit gentiment Eddie. « En 1986, les Athletics étaient à Oakland. » Il détacha les yeux de l'autocollant et reporta son regard sur Jake. « Une équipe de deuxième division, peut-être ?» demanda-t-il, ou même de troisième. Les Royals de troisième division sont toujours des Royals, dit Jake. Et ils jouent à Omaha. Allez, bougeons de là. Et sans savoir ce qu'il en était pour les autres, Jake se remit en route d'un cœur plus léger. C'était peut-être idiot, mais il était soulagé. Il ne croyait plus que ce terrible fléau menaçait son monde, parce que dans ce monde-là, il n'y avait pas le Kansas City Monarchs. Peut-être que c'était là une information bien mince pour tirer des conclusions, mais ça lui semblait vrai. Et c'était sauter un poids énorme que de réussir à se persuader que ni son père ni sa mère n'étaient voués à mourir à cause d'un virus qu'on appelait Capitaine Trips et à être inséré dans une décharge ou quoi ou qu'est-ce. Sauf que ça n'était pas certain à 100%. Même si ce n'était pas là la version 1986 de son monde de 1977. Parce que même si cet effroyable fléau était survenu dans un monde où on trouvait des voitures Takuro Spirit et où George Brett jouait pour les Casey Monarchs, Roland avait dit que le mal s'étendait et que des choses comme la super grippe grignotaient l'étoffe de l'existence comme l'acide attaque le moindre bout de tissu. Le pistolero avait parlé d'une flaque de temps, une expression que Jake avait trouvée au premier abord romantique et charmante, mais à supposer que l'eau de cette flaque devienne stagnante et marécageuse, et à supposer que ces trucs style triangle des Bermudes, que Roland appelait des tramés autrefois d'une grande rareté, deviennent la règle au lieu de l'exception. À supposer. Oh, c'était là une pensée effroyable, une de celles qui vous garantissait de rester éveillé passé 3 heures du matin, que toute réalité s'affaisse au fur et à mesure que s'aggravaient les faiblesses structurelles de la tour. À supposer que survienne un crash, un niveau s'effondrant sur le suivant, puis sur le suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que... Quand Eddie la grippa par l'épaule et la lui pressa, Jake dut se mordre la langue pour s'empêcher de hurler. « Tu te files la poisse à toi-même, » dit Eddie. « Qu'est-ce que t'en sais ?» demanda Jake. C'était insolent, mais il était fou furieux. D'être terrorisé ou d'être vu dans cet état, il n'aurait su le dire. Il s'en foutait pas mal, d'ailleurs.
« Question poisse, j'en connais un bout, » fit Eddie.
« Je ne sais pas ce que tu rumines exactement, mais quoi que ce soit, le moment est bien choisi pour arrêter d'y penser. »
C'était probablement de bons conseils, décida Jake. Ils traversèrent la rue de concert en direction de Gage Park et de l'un des plus grands chocs que Jake devait éprouver de sa vie. 2. Une fois franchi l'arche de fer forgé où Gage Park était inscrit en lettres onciales à l'ancienne, ils se retrouvèrent sur un sentier de briques traversant un espace tenant à la fois du jardin à l'anglaise et de la jungle équatoriale. Laissé à l'abandon, pendant le chaud été du Midwest, il avait prospéré anarchiquement. Toujours laissé à l'abandon cet automne, il avait complètement périclité. Un écriteau juste après l'arche proclamait qu'il s'agissait là de la roseraie Rheinisch. Et des roses, ce n'était pas ça qui manquait. Partout, des roses. Si la plupart étaient fanées, certaines, les plus sauvages, étaient des plus florissantes et donnèrent à Jake une nostalgie si grande de la rose du terrain vague au coin de la 46e rue et de la 2e avenue qu'elle vira à la douleur. À peine entré dans le parc, en retrait sur l'un des côtés, ils virent un magnifique carrousel d'autrefois, aux fringants destriers et étalons de course, désormais immobiles sur leur barre. Le silence du manège, ses lumières clignotantes éteintes à jamais, et la musique de son limonaire qui s'était tue pour toujours, firent frissonner Jake. Le gant de baseball d'un enfant pendillait de l'encolure d'un cheval au bout d'une lanière de cuir. Jake eut du mal à ne pas détourner les yeux. Au-delà du carrousel, la végétation se faisait plus dense, étouffant le sentier et obligeant bientôt les voyageurs à avancer en file indienne, comme des enfants égarés dans une forêt de contes de fées. Les épines des rosiers luxuriants et non taillés s'accrochaient aux vêtements de Jake. Il s'était retrouvé en tête un peu par hasard, probablement parce que Roland était toujours plongé dans ses pensées. Et c'est pourquoi il fut le premier à apercevoir Charlie le chouchou. Sa seule idée en approchant des rails de chemin de fer à écartement étroit qui traversaient le sentier, on aurait dit une voie miniature en fait. C'était ce que le pistolero avait dit. Le cas est comme une roue revenant sans cesse au même point. Les roses et les trains nouantes, songea-t-il. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suppose que c'est encore une vie. Il regarda alors sur sa gauche et lâcha, ô bonté divine, d'un seul tenant. Les jambes coupées, il dut s'asseoir. Sa voix lui parut lointaine, comme filtrée par de l'eau. Il ne s'évanouit pas complètement, mais la couleur se retira de ce qui l'entourait, au point que les feuillages exubérants du côté ouest du parc lui semblèrent du même gris que le ciel d'automne au-dessus de sa tête.
« Jake ? Jake, ça va pas ?»
C'était Eddie, et Jake décelait une véritable inquiétude dans sa voix, mais elle lui parvenait comme lors d'une mauvaise communication interurbaine. De Beyrouth, disons, ou même de Sirius. Et il sentait aussi la main apaisante que Roland posait sur son épaule, mais elle était aussi lointaine que la voix d'Eddie.
« Jake ?»
C'était Susanna.
« Qu'est-ce qui t'arrive, mon lapin ? Qu'est-ce que... »
Puis, voyant la chose à son tour, elle cessa de s'adresser à lui. Ensuite, ce fut à Eddie de se taire. Enfin, la main de Roland le lâcha. Ils restèrent tous plantés là à regarder, sauf Jake qui continuait à le faire, assis par terre. Il supposa qu'il recouvrerait bientôt assez de force dans les jambes pour se relever, mais pour l'instant, il se sentait mou comme une chiffe. Le train était arrêté 15 mètres plus loin, dans une gare jouet, réplique de celle qu'il venait de quitter. Accroché à son avant-toit, un panneau indiquait « Topeka ». Le train, c'était Charlie le chouchou. Chasse-pierre et tout, et tout. Une locomotive à vapeur, 402 Big Boy. Et Jake savait que s'il trouvait assez de force pour se remettre debout et s'en approcher, il découvrirait une nichée de souris dans le siège du mécano qui avait dû s'appeler Bob Truc Machin Chose. Quant à la cheminée, elle abriterait une famille d'hirondelles. Sans oublier ses larmes huileuses et sombres, songea Jake, regardant le train miniature devant sa gare miniature, gagné par la chair de poule, l'estomac serré, le trouillomètre à zéro. La nuit, il pleure ses larmes huileuses et sombres qui rouillent comme de beaux diables son superbe phare Stratham. Mais de ton temps, mon vieux Charlie, tu as tiré plus que ton comptant de gamin. Hein? Tu faisais des tours et des détours dans Gage Park. Et les gamins riaient, sauf ceux qui riaient jaune. Ceux qui voyaient clair dans ton jeu criaient à plein poumon. Comme moi aussi, je crierais maintenant, si j'en avais la force. Mais ses forces lui revenaient, et quand Eddie passa la main sous l'un de ses bras et que Roland l'imita de l'autre côté, Jake fut capable de se lever. Il chancela une fois, puis affermit son équilibre. « Que ce soit bien entendu, je ne te rapproche à rien, » dit Eddie. Il avait la voix grave, son visage l'était aussi. J'ai bien failli tomber à la renverse, moi aussi. C'est celui de ton bouquin. Et le voilà, plus vrai que nature. Nous savons maintenant d'où Miss Barry Levens a tiré l'idée de Charlie le Chouchou, dit Susanna. Ou bien elle a vécu ici, ou bien un peu avant 1942, quand son bouquin de merde a été publié, elle a visité Topeka. Et vu le train pour enfants qui traverse la roseraie Rhenish et fait le tour de Gage Park, acheva Jake. Il dominait sa frayeur à présent. Et lui, qui était non seulement un enfant, mais qui, une bonne partie de sa vie, avait été un enfant solitaire, ressentit une bouffée d'amour et de gratitude pour ses amis. Ils avaient vu ce qu'il avait vu, et avaient compris où sa frayeur avait pris sa source. Normal, il formait un quatre-têtes. Il ne répondra pas à des questions bêtes, il ne jouera pas à des jeux bêtes, fit Roland rêveusement. Tu te sens d'attaque pour continuer, Jake?
Oui.
T'en es sûr? Demanda Eddie. En voyant Jake opiner, Eddie poussa Susanna et lui fit franchir la voie. Roland suivit. Jake hésita encore un instant, se souvenant d'un rêve qu'il avait fait. Lui et Otte se trouvaient à un passage à niveau et le bafouilleux avait sauté tout à coup au beau milieu des rails, aboyant comme un perdu contre le phare de la loco qui s'approchait. Jake se baissa alors et souleva Otte vite fait. Il contempla le train à l'arrêt dans sa gare qui rouillait tranquillement. Son phare avant éteint avait tout d'un œil mort.
« J'ai pas peur, » dit-il à voix basse. « Pas peur de toi. »
Le phare, reprenant vie soudain, lança un éclair d'une brièveté aveuglante, comme pour dire de façon grandiloquente « Pas à moi, pas à moi, mon cher petit louchon !» Puis il s'éteignit. Les trois autres n'avaient rien vu. Jake jeta un dernier coup d'œil au train, s'attendant à ce que le phare lance un nouvel éclair, et même peut-être que la maudite machine démarre pour de bon et tente de l'écraser. Mais rien ne se passa. Le cœur tambourinant dans sa poitrine, Jake se hâta de rejoindre ses compagnons. 3. Le zoo de Topeka, de renommée mondiale, à en croire les divers panneaux, regorgeait de cages vides et de cadavres d'animaux. Les bêtes qu'on avait libérées avaient disparu. Les autres étaient mortes à proximité. Les grands singes se trouvaient encore dans le secteur habitat du gorille et paraissaient être morts, main dans la main. Eddie faillit en chialer. Depuis qu'il n'avait plus trace d'héroïne dans les veines, ses émotions menaçaient constamment d'exploser comme un cyclone. Ses vieux potes se seraient bien marrés. Au-delà de l'habitat du gorille, le cadavre d'un loup gris gisait au beau milieu du chemin. Otte s'en approcha précautionneusement, le renifla, puis étirant son long cou, commença à hurler à la mort.
« Fais-le arrêter ça, Jake, tu m'entends ?» dit Eddie d'un ton bourru.
Il prit soudain conscience de l'odeur des bêtes en décomposition. C'était une senteur vague que la chaleur de l'été finissant avait quasiment évaporé, mais ce qu'il en subsistait dans l'air lui donna envie de gerber, même s'il avait eu du mal à se rappeler la dernière fois qu'il avait mangé.
« Otté, au pied !»
Otté lança un dernier hurlement et s'en retourna près de Jake. Il leva vers lui ses yeux cerclés d'or comme d'inquiétantes alliances. Jake le prit dans ses bras, lui fit contourner le loup, puis le reposa sur le sentier pavé de briques. Le sentier les amena jusqu'à une volée de marches des plus raides, déjà envahies par les mauvaises herbes qui s'insinuaient à travers la maçonnerie. Une fois au sommet, Roland jeta un coup d'œil rétrospectif sur le zoo et les jardins. De là-haut, il distinguait très nettement le circuit de la voie de chemin de fer miniature qui permettait aux passagers de Charlie d'effectuer le tour complet de Gage Park. Au-delà, une bourrasque de vent froid balayait à grand tapage les feuilles mortes sur Gage Boulevard. « Ainsi chut Lord Perth, » murmura Roland.
« Et la contrée a tremblé sous ce coup de tonnerre, » acheva Jake.
Roland le regarda d'un air surpris, tel un homme émergeant d'un profond sommeil. Puis il sourit et lui entoura les épaules de son bras. « J'ai joué les Lord Perth dans le temps, » dit-il.
« Ah oui ?»«
Oui. Très bientôt, tu en entendras parler. »
4.
Au-delà des marches se trouvait une volière remplie d'oiseaux exotiques crevés. Au-delà de la volière, un snack bar affichait, avec une certaine cruauté, peut-être due au lieu, le meilleur Buffalo Burger de tout Pékin. Au-delà du snack bar, on lisait sur l'enseigne d'une nouvelle arche en fer forgé. À très bientôt à Gage Park. Au-delà, enfin, on distinguait la courbe d'une bretelle d'autoroute à accès limité. Au-dessus se détachaient nettement les panneaux verts qu'ils avaient repérés tout d'abord, depuis l'autre côté.
Et c'est reparti pour un tour de péagisage, fit Eddie de façon presque inaudible.
Nom de Dieu, soupira-t-il.
C'est quoi le péagisage, Eddie ?
Jake ne comptait pas qu'Eddie lui répondrait. Quand Susanna pivota pour le regarder, Eddie, empoignant encore à pleine main les bras de son nouveau fauteuil roulant, détourna les yeux. Puis, il fixa tour à tour Susanna et Jake.
C'est pas joli joli, à l'image de ma vie, avant que Gary Cooper, ici présent, ne me tire à travers la grande faille temporelle.
T'es pas obligé, c'est pas très important non plus. On se réunissait en bande, moi, mon frère Henry, Bam O'Hara, d'habitude, parce qu'il avait une bagnole, Sandra Corbett, et peut-être aussi ce pote de mon frère qu'on appelait Jimmy Polio. Et on mettait nos noms dans un chapeau. Celui qu'on tirait au sort était le guide du trip. Henry l'appelait comme ça. Lui, ou elle, si ça tombait sur Sandy, devait rester clean de dope. Enfin, tout est relatif. Tous les autres se défonçaient, grave. Ensuite, on s'entassait dans la Chrysler de Bum et on filait dans le Connecticut par l'Interstate 95 ou bien on fonçait vers le nord de l'État de New York en se farcissant la route touristique taconique. Sauf que nous, on l'appelait la catatonique. On s'écoutait les Creedence Clearwater Revival, Marvin Gaye ou même le best-of d'Elvis sur l'autoradio. C'était mieux la nuit et quand c'était la pleine lune, on glandait des heures parfois. La tête à la portière comme les chiens à mater la lune et à guetter les étoiles filantes. On appelait ça faire un tour de péagisage. Eddie sourit avec effort, semblait-il. Une vie de rêve, je vous dis que ça, les mecs.
Ça m'a l'air plutôt sympa, fit Jake. Pas la partie de drogue, etc., je veux dire. Mais rouler avec des copains la nuit, regarder la lune en écoutant de la musique, moi, je trouve ça super.
Ouais, ça l'était, reconnut Eddie.
Même si quand on était bourré à bloc de Reds, on était capable d'arroser aussi bien nos godasses que les buissons, c'était super. Il marqua un temps. C'est ça le plus horrible.
Tu piges pas.
Va pour le péagisage, c'est parti, fit le pistolero. En quittant Gage Park, ils gagnèrent l'entrée de la rampe d'accès à l'autoroute.
5. On avait bombé les deux panneaux flanquant la courbe ascendante de la bretelle. Sur celui où on lisait « Saint-Louis 344 », on avait barbouillé en noir par-dessus « Attention aux marcheurs ». Sur l'autre qui annonçait « Prochaine aire de repos 16 km », on avait tracé en grosses lettres rouges « Vive le roi cramoisi ». Cet écarlate-là était encore assez vif pour claquer, même après tout un été. Les deux panneaux portaient un symbole identique, un œil.
« Tu sais ce que ça signifie, tous ces trucs, Roland ?» demanda Susanna.
Roland fit non de la tête tout en paraissant perplexe, et ce regard d'introspection ne quitta plus ses yeux. Ils poursuivirent leur avancée.
6. Au point de jonction de la bretelle et de l'autoroute à péage, les deux hommes, le jeune garçon et le bafouilleux, se regroupèrent autour du fauteuil roulant de Susanna. Ils avaient tous le regard tourné vers l'est. Eddie ignorait quel serait l'état du trafic une fois sorti de Topeka, mais ici, toutes les voies, aussi bien en direction de l'est, celle du côté où il se tenait, que de l'ouest, étaient engorgées par les voitures et les camions. La plupart des véhicules croulaient sous un entassement de biens divers et variés qu'une saison de pluie avait fait rouiller. Mais la circulation était le cadet de leurs soucis, tandis qu'ils restaient plantés là, à scruter l'est sans dire un mot. Sur environ 1 kilomètre, dans les deux sens, la ville se poursuivait. Ils apercevaient des flèches d'église, une enfilade de fast-food, Arby's, Wendy's, McDonald's, Pizza Hut et Boing Boing Burgers, chaînes dont Eddie n'avait jamais entendu parler, d'établissements concessionnaires de marques d'automobiles, le toit d'un bowling du nom d'Earthland Lanes. Un peu plus loin devant eux, il y avait une autre sortie dont le panneau annonçait « Hôpital public de Topeka » et « 6e Sud-Ouest ». Au-delà de la bretelle se tassait un vieil édifice de briques rouges percé de minuscules fenêtres comme autant d'yeux aux aguets à travers les cascades de lierre de sa façade. Eddie songea qu'un bâtiment si semblable à la prison d'Attica devait être un hôpital, probablement ce genre de purgatoire de l'aide sociale où de pauvres hères restaient assis des heures d'affilée sur des chaises de plastique merdiques pour permettre à un docteur lambda de les examiner comme s'ils n'étaient rien d'autre que de la crotte de chien. Après l'hôpital, la ville se terminait brusquement et la tramée commençait. Aux yeux d'Eddie, on aurait dit les eaux mortes d'un vaste marécage. Miroitantes et argentées, elles se pressaient des deux côtés de la chaussée surélevée de l'Interstate 70, faisant trembloter panneaux, glissières de sécurité et voitures à l'arrêt comme autant de mirages. La tramée émettait son bourdonnement liquide comme une pestilence. Susanna se boucha les oreilles avec une grimace.
« Je sais pas comment j'arrive à supporter ça. Vraiment. Je veux pas vous filer le cafard, mais j'ai déjà envie de vomir et j'ai pourtant rien avalé de la journée. »
Eddie ressentait la même chose. Cependant, tout barbouillé qu'il fût, il avait du mal à détacher ses yeux de la tramée. C'était comme si l'irréel avait été doté d'un quoi ?
Un visage ?
Ah, ça non ! La vaste étendue argentée et vrombissante qui s'étalait devant eux était sans visage, était l'antithèse même d'un visage. En fait, elle avait un corps, un aspect, une présence. Oui, c'était bien ça. Elle avait une présence, semblable à celle du démon venu dans le cercle de pierre quand il s'efforçait de tirer Jake.
Roland, entre-temps, fouilla au tréfonds de sa bourse avant de trouver ce qu'il cherchait, une poignée de balles de revolver. Détachant la main droite de Susanna du bras du fauteuil, il lui en colla deux dans la paume. Puis, en prenant deux autres, il se les enfonça dans les oreilles. Susanna le regarda faire, d'abord éberluée, puis amusée, sceptique au final. Mais elle n'en suivit pas moins son exemple.
Son visage exprima aussitôt un soulagement béat. Eddie se déchargea de son havresac et en sortit la boîte de balles de calibre 44 à moitié pleine, correspondante au Ruger de Jake. Le pistolero fit non de la tête, tendant sa main ouverte. Elle contenait encore 4 de ses balles. 2 pour Eddie, 2 pour Jake.
« Qu'est-ce qui cloche chez celle-là ? » demanda Eddie, qui, agitant la boîte trouvée derrière les classeurs verticaux du tiroir du secrétaire d'Elmer Chambers, en fit tomber 2-3 balles.
« Elles viennent de ton monde. Elles n'arrêteront pas ce son. Ne me demande pas comment je le sais, c'est tout. Tu peux les essayer si ça te chante. Ça marchera pas. »
Eddie désigna les balles que Roland lui proposait.
« Celles-là aussi viennent de notre monde. De l'armurerie à l'angle de la 7e avenue et de la 49e rue. De chez Clemens. C'était pas ça le nom ?»«
Non, rien à voir, Eddie. Elles sont à moi. On les a souvent rechargées, mais je les ai fait suivre de la verte contrée. De Gilead. »«
Tu veux dire celles qui ont pris l'eau ?» demanda Eddie avec incrédulité. « Les dernières cartouches trempées de la plage ?»
Roland opina.
« Tu disais qu'elles étaient inutilisables, elles le resteraient, même si elles séchaient, que la poudre avait été, comment tu disais déjà ? Ah oui, éventée !»
Roland opina de plus belle.
« Alors pourquoi tu les as gardées ? Pourquoi avoir trimballé cette ribambelle de balles inutiles aussi loin ?»
« Qu'est-ce que je t'ai appris à dire après avoir tué Eddie, pour te clarifier les idées ?»« Père, guide mes mains et mon cœur afin qu'aucune partie de cet animal ne soit gâtée. » Roland opina pour la 3e fois. Jake prit 2 balles du pistolero et se les glissa dans les oreilles. Eddie prit les 2 qui restaient, mais ne put s'empêcher d'essayer d'abord celle en sa possession. Elles avaient beau atténuer le son de la tramée, il n'en demeurait pas moins vibrant au milieu de son front, lui faisant pleurer les yeux comme quand il était enrhumé, lui donnant la sensation que l'arête de son nez allait exploser. Retirant les siennes, il les remplaça par les balles plus grosses des antiques revolvers de Roland. « M'enfiler des balles dans les oreilles, songea-t-il. M'en chirer une pendule. Mais quelle importance !» Le son de la tramée avait disparu, ou du moins s'était estompé jusqu'à n'être plus qu'un lointain zonzon. Et voilà le résultat. Se retournant vers Roland pour lui parler, il s'attendait à entendre sa propre voix assourdie, comme quand on porte des boules-caisses. Mais il découvrit qu'elle était parfaitement audible.
« Y a-t-il quelque chose que tu ignores ?» lui demanda-t-il.
« Oui, » répondit Roland. « Des tas. »«
Et ôté ?» demanda Jake.
« Pour ôté, ça ira, je crois, » dit Roland. « Allons-y, tâchons de couvrir quelques kilomètres avant la nuit. »
7. Le gazouillis de la tramée ne parut pas déranger ôté. Il ne quitta pas Jake Chambers d'une semelle de tout l'après-midi, examinant avec méfiance les voitures immobilisées qui obstruaient les voies de l'Interstate 70 en direction de l'Est. Susanna s'aperçut pourtant que la congestion n'était pas complète. L'embouteillage se clairsemait au fur et à mesure que les voyageurs laissaient le centre-ville derrière eux. Mais même aux endroits où la circulation avait été dense, on avait poussé les véhicules en rade d'un côté ou de l'autre, et garé certains sur le terre-plein central, bétonné dans la partie urbaine, gazonné en rase campagne.
Quelqu'un a utilisé sa dépanneuse, d'après moi, songea Susanna. Cette idée la rasséréna. Personne ne se serait soucié de s'ouvrir un passage sur l'autoroute pendant que le fléau faisait rage. Et si quelqu'un s'en était chargé depuis, si s'était trouvé quelqu'un dans le coin depuis, cela signifiait que le dit fléau n'avait pas rayé tout le monde de la carte et que ces voitures cénotaphes n'étaient pas le fin mot de l'histoire. S'il y avait des cadavres dans certains habitacles, la plupart, comme ceux qu'ils avaient découverts au pied de l'escalier de la gare, étaient desséchés, et non pas des momies dégoulinantes de sani, maintenues par leur ceinture de sécurité. Mais en grande majorité, les voitures étaient vides. Nombre de conducteurs et leurs passagers, pris dans ces embouteillages monstres, avaient probablement tenté de fuir à pied la zone frappée par le fléau, supposa-t-elle.
Mais ça ne devait pas être la seule raison, subodora-t-elle.
Susanna savait qu'en ce qui la concernait, il aurait fallu l'enchaîner au volant pour la faire demeurer dans une voiture dès qu'elle aurait ressenti les premiers symptômes d'une maladie fatale. Si elle devait mourir, autant que ce fût à l'air libre de la création, une colline serait l'endroit idéal, ou n'importe quelle autre élévation. Mais même un champ de blé ferait l'affaire, s'il fallait en venir là. Tout, plutôt que de rendre son dernier soupir avec l'odeur du bloc désodorisant pendouillant du rétroviseur dans les narines. Susanna pressentait qu'ils auraient pu voir les nombreux cadavres de ces morts fauchés en pleine fuite, mais que le moment en était passé, à cause de la tramée. Ils s'en approchaient sans coup férir, et elle sut exactement quand ils y pénétrèrent. Une sorte de picotement frissonnant lui parcourut l'échine, et elle raidit ses moignons de jambes. Le fauteuil roulant arrêta d'avancer un instant. En se retournant, elle vit Roland, Eddie et Jake qui se tenaient le ventre en grimaçant, comme s'ils avaient été pris collectivement de coliques. Puis Eddie et Roland se redressèrent. Jake se pencha pour caresser Otte, qui n'avait pas cessé de l'observer avec anxiété.
« Alors les mecs, ça boum ?»
demanda Susanna. La question fut posée avec la voix mi-ronchon, mi-sarcastique de Detta Walker. Ça la reprenait, à l'improviste, sans prévenir.
« Ouais, » fit Jake. « Mais j'ai l'impression d'avoir une boule dans la gorge. »
Il fixait la tramée avec un certain malaise. Son vide blanchâtre les cernait de toutes parts à présent, comme si le monde entier s'était transformé en une fagne du Norfolk à l'aube. Tout près, les arbres crevaient sa surface argentée, projetant des reflets distordus qui ne restaient jamais en repos ni tout à fait nets. Un peu plus loin, Susanna aperçut la tour d'un silo à grains qui paraissait flotter. Alimens Gaddish se détachait sur son flanc en lettres roses qui devait être rouge en temps normal.
Moi, c'est dans la tête que j'ai l'impression d'avoir une boule, fit Eddie. Putain, comme elle miroite cette merde!
Tu l'entends toujours? Demanda Susanna.
Ouais, mais faiblement. Je peux supporter. Et toi?
Marchant. C'était comme voler cockpit ouvert dans un avion à travers des lambeaux de nuages, décida Susanna. Ils avaient avancé sur des kilomètres et des kilomètres, leur semblait-il, à travers cette brillance bourdonnante qui n'était ni brume ni eau, distinguant de vagues formes au passage, une grange, un tracteur, un panneau publicitaire Stucky, avant que tout ne disparaisse, sauf la route devant eux qui se poursuivait avec constance au-dessus de la surface indistincte et luisante de la tramée. Puis, tout à coup, le paysage se dégageait. Le bourdonnement s'amenuisait jusqu'à frôler le seuil de l'audible. Ils pouvaient même se déboucher les oreilles sans être gênés, du moins jusqu'à ce qu'ils approchent de la fin de cette trouée. Ils voyaient à nouveau le panorama. Enfin non, ce terme de panorama était trop fort pour le Kansas, mais des champs s'étalaient à perte de vue, et ça et là, un bouquet d'arbres colorés par l'automne marquait l'emplacement d'une source ou d'une mare à bestiaux. Rien à voir avec le Grand Canyon ou le ressac venant se briser au phare de Portland, mais du moins pouvait-on apercevoir une ligne d'horizon et échapper à la déplaisante sensation d'être mis au tombeau. Puis c'était reparti pour la purée de pois. Jake fournit la description la plus juste, d'après Susanna, en déclarant que se trouver dans la tramée, c'était comme avoir rejoint le mirage aquatique qui borne l'horizon les jours de forte chaleur sur la route. Quoi que ce fût, et la description qu'on en donnait, s'y trouver englué, était un purgatoire claustrophobique. Le monde extérieur étant gommé, sauf la double voie de l'autoroute à péage, et les épaves des voitures évoquant celles de navires à l'abandon sur un océan pris par les glaces.
« Je vous en prie, aidez-nous à sortir de là !» supplia Susanna, s'adressant à un dieu auquel elle ne croyait plus vraiment. «
tout en croyant encore en quelque chose, mais depuis son réveil dans le monde de Roland, sur la plage de la mer Occidentale, sa conception de l'invisible avait considérablement changé. « Je vous en prie, aidez-nous à retrouver le rayon. Je vous en prie, aidez-nous à échapper à ce monde de silence et de mort. » Ils gagnèrent la plus vaste trouée qu'ils aient rencontrée jusque-là, près d'un panneau autoroutier où on lisait « Big Springs, 3 kilomètres ». Derrière eux, à l'ouest, le soleil couchant brillait par une étroite percée entre les nuages, ses éclats écarlates rebondissant à la surface de la tramée et incendiant vitres et feux arrière des voitures immobilisées. De part et d'autre s'étiraient des champs vides. La pleine terre, venue et repartie, songea Susanna. La moisson, venue et repartie aussi. C'est ce que Roland appelle la clôture de l'année. À cette idée, elle frissonna. « On va camper ici cette nuit, » dit bientôt Roland, à peine dépassé la bretelle de sortie de Big Springs. Devant eux, ils apercevaient la tramée empiétée à nouveau sur l'autoroute, mais à plusieurs kilomètres de là. On voyait rudement loin, vers l'est du Kansas, découvrit soudain Susanna. On peut trouver du bois pour le feu sans se rapprocher beaucoup de la tramée et le son restera insupportable. On pourra même dormir sans se fourrer des balles dans les oreilles. Eddie et Jake enjambèrent la glissière de sécurité, descendirent le remblai et se mirent en quête de bois le long du lit à sec d'une rivière, restant ensemble comme Roland les avait exhortés à le faire. À leur retour, les nuages avaient à nouveau englouti le soleil, et un crépuscule cendreux, sans intérêt, s'installait furtivement sur le monde. Le pistolero écorça des brindilles pour en faire du petit bois, avant de le disposer à sa façon habituelle, édifiant une sorte de cheminée sur la bande d'arrêt d'urgence. Pendant ce temps, Eddie gagna nonchalamment le terre-plein central, et resta là, main dans les poches, les yeux fixés vers l'est. Peu après, il fut rejoint par Jake et par Otey. Roland sortit sa barre d'acier et son silex, fit jaillir une étincelle dans le conduit de sa cheminée de fortune, et bientôt le petit feu de camp pétilla haut et clair. « Roland ? Susie ! » les héla Heidi. « Venez voir par ici !» Susanna commença à faire rouler son fauteuil en direction d'Eddy, puis Roland, après un dernier coup d'œil au feu de camp, s'empara des poignets et la poussa.
Voir quoi ?
Demanda Susanna. Eddie montrait quelque chose du doigt. Tout d'abord, Susanna ne discerna rien, bien que l'autoroute demeurât parfaitement visible, même au-delà du point où la tramée se refermait autour d'elle, à 5 kilomètres de là. Puis, oui, il lui sembla distinguer vaguement quelque chose, une forme quelconque à l'extrême limite de son champ visuel, si ce n'était pas un tour du jour qui tombait.
« C'est pas un immeuble ?» demanda Jake. « Sapristi, on dirait qu'on l'a construit en plein milieu de la route. »«
Qu'est-ce que c'est, Roland ?» fit Eddie. « Toi qui as les meilleurs yeux de la création. »
Le pistolero demeura silencieux un moment, se contentant d'observer en amont du terre-plein central ses pouces passer dans son ceinturon. « On y verra plus clair, une fois plus près, » fut sa conclusion.
« Oh, ça va !» s'exclama Eddie. « Nom de Dieu, tu sais ce que c'est ou pas ?»«
On y verra plus clair une fois plus près, » répéta le pistolero. Ce qui était tout sauf une réponse. Il refranchit sans se presser les voies est pour aller vérifier le feu de camp, faisant claquer les talons de ses bottes sur l'asphalte. Susanna échangea un regard avec Eddie et Jake, puis haussa les épaules. Ils les haussèrent en retour. Jake éclata soudain d'un rire sonore. D'habitude, songea Susanna, le gosse se comportait plutôt comme un ado de 18 ans que comme un gamin de 11. Mais ce fou rire avait 9-10 ans d'âge, ce qui ne la dérangeait pas du tout. Elle baissa les yeux vers Otey, qui les regardait sérieux comme un pape, tentant en vain d'imiter un haussement d'épaule de l'échine. 8.
Ils mangèrent les friandises roulées dans une feuille qu'Eddie surnommait les burritos du pistolero. Ils se rapprochèrent du feu auquel ils rajoutèrent du bois au fur et à mesure que l'obscurité venait. Quelque part au sud, un oiseau poussa son cri, le son le plus solitaire qu'il ait entendu de sa vie, estima Eddie. Nul d'entre eux ne parlait beaucoup, et il lui traversa l'esprit qu'à ce moment de la journée, il le faisait rarement. Comme si l'heure où la terre escamotait le jour pour la nuit était particulière, comme si elle les coupait de cette puissante camaraderie que Brandt appelait le cas-tête. Jake nourrissait ôté de miettes de viande de daim séché de son dernier burrito. Susanna, installée sur son sac de couchage, jambes croisées sous son cache-poussière, contemplait rêveusement le feu. Roland, arc-bouté sur les coudes, regardait, lui, vers le ciel où les nuages se fondaient loin des étoiles. Levant la tête à son tour, Eddie s'aperçut que le vieil astre et la vieille mère avaient disparu, remplacés par l'étoile polaire et la grande ours. Ce n'était peut-être pas là son monde. Les voitures Takuro, les Kansas City Monarch, la chaîne de fast-food Boing Boing Burgers l'attestaient. Mais Eddie trouvait qu'il ressemblait au sien de trop près pour conserver sa tranquillité d'esprit. Peut-être, songea-t-il, est-ce tout bonnement le monde de la porte d'à côté? L'oiseau poussa à nouveau son cri au loin et le tira de sa torpeur. Il regarda Roland. « Tu devais nous raconter quelque chose, » fit-il. « Une histoire super excitante de ta folle jeunesse, je crois, à propos d'une certaine... Susan, c'était bien son nom ?» Le pistolero continua de contempler le ciel un petit moment. À présent, c'était au tour de Roland de se laisser aller à la dérive parmi les constellations, compris Eddie, avant de reporter son regard sur ses amis. Il eut l'air étrangement penaud, bizarrement mal à l'aise. « Vous m'accuseriez de vous gruger, fit-il, si je vous demandais encore un jour pour repenser à toutes ces choses ?»« Ou peut-être est-ce d'une nuit que j'ai besoin pour y rêver ?» Ce sont des choses si anciennes, des choses mortes. Peut-être que je... » Il leva la main en un geste éperdu. Certaines choses ne reposent pas en paix même quand elles sont mortes. Leurs ossements crient dans la terre.
« Ce sont des fantômes, » dit Jake.
Et Eddie vit passer dans ses yeux l'ombre de la terreur qu'il avait dû éprouver dans la maison de Dutch Hill. Celle qu'avait dû lui inspirer le gardien en se détachant du mur pour tenter de s'emparer de lui.
« Parfois il y a des fantômes, » répéta-t-il, « et parfois ils jouent en revenant. »«
Oui, tu as raison, » confirma Roland.
« Peut-être qu'il vaut mieux pas broyer du noir, » dit Susanna. « Il y a des fois, surtout quand on sait qu'un truc va être du rail, vaut mieux enfourcher son cheval et partir au galop. »
Roland rumina ce qu'elle venait de dire, puis leva les yeux vers elle. « Demain soir, autour du feu, je vous parlerai de Suzanne. Je vous le promets, au nom de mon père. »«
On est obligé de t'écouter ?» demanda Eddie tout à trac.
Il fut quasiment ahuri de s'entendre formuler cette question. Personne n'était plus curieux de connaître le passé du pistolero que lui.
« Je veux dire... « Si c'était vraiment douloureux, Roland, si ça se fait mal, un max, peut-être que... Je ne suis pas sûr qu'il faut que vous m'écoutiez, mais je crois que moi, j'ai besoin d'en parler.
Notre avenir, c'est la tour, et pour m'y rendre en y mettant tout mon cœur, je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour tracer une croix sur mon passé. Il m'est impossible de vous le narrer dans son intégralité. » Dans mon monde, même le passé change, il se réarrange selon de nombreuses et vitales façons. Mais cette histoire-là tiendra lieu de tout le reste.
« C'est un western ?»
demanda Jake soudain. Roland le regarda, perplexe.
« Je ne saisis pas bien ce que tu veux dire, Jake. Gilead est une baronnie du monde occidental, et Mégis aussi, mais...
« Ce sera un western, »
affirma Eddie. « Toutes les histoires de Roland sont des westerns, au fond. » Il s'étendit, remontant la couverture sous son menton. Provenant à la fois de l'est et de l'ouest, il entendait faiblement le zonzon de la tramée. Il chercha dans ses poches les cartouches que Roland lui avait données et fut satisfait de les sentir sous ses doigts. Il estima qu'il pouvait dormir sans cette nuit-là, mais qu'il en aurait besoin le lendemain soir. Ils étaient loin d'avoir fini de péagiser. Susanna, se penchant sur lui, lui embrassa le bout du nez.
« Rétamé par ta journée, chouchou ?»«
Ah, fit Eddie, se nouant les mains derrière la tête. « C'est pas tous les jours que je me tape un voyage sur le train le plus rapide du monde, que je détruis l'ordinateur le plus intelligent du monde et que je découvre que la grippe a tordu le cou à tout le monde. Et tout ça avant le dîner. Des conneries de ce genre, ça vous crève un homme. »
Eddie sourit et ferma les yeux. Il souriait encore quand le sommeil s'empara de lui.
9. Dans son rêve, toute la bande se trouvait au coin de la 2e avenue et de la 46e rue, regardant par-dessus la palissade dans le terrain vague plein d'herbes folles qui se trouvait derrière. Ils portaient leurs vêtements de l'entre-deux mondes, un assemblage bariolé de daims et de vieilles chemises qui tenaient ensemble à la va-comme-je-te-pousse. Mais aucun des passants qui se pressaient sur la 2e avenue ne semblait leur prêter attention. Personne ne remarquait le bafouilleux que Jake tenait dans ses bras, pas plus que l'artillerie qu'il trimbalait.
Parce qu'on est des fantômes, songeait Eddie. Des fantômes qui reposent pas en paix.
Sur la palissade, il y avait des affiches. Une des Sex Pistols, celle de la tournée de la reconstitution du groupe, d'après le poster, et Eddie se disait que c'était plutôt marrant. S'il y avait un groupe qui ne se reconstituerait jamais, c'était bien les Sex Pistols. Une autre, d'un comique du nom d'Adam Sandler, dont Eddie n'avait jamais entendu parler, et une affiche du film « Dangereuse Alliance » sur une bande de sorcières ados. À la suite de cette dernière, on lisait en lettres d'un rose poussiéreux, celui des roses d'été. « Vois l'ours effrayant de taille, ses yeux reflètent le monde, le temps montre sa trame, le passé est une devinette, la tour t'attend au milieu. »
« Là, » dit Jake, pointant le doigt, « la rose ! Regardez comme elle nous attend, au beau milieu du terrain vague !»«
Oui, comme elle est belle !»
ajouta Susanna, qui désigna alors le panneau planté près de la rose, face à la 2e avenue. Le ton de sa voix et ses yeux trahissaient son trouble.
« Mais c'est quoi, ça ?»
Si l'on en croyait le panneau de société immobilière, les Mills Enterprises et Sombra Promotion s'associaient pour un projet du nom de résidence de la baie de la Tortue qui devait être construit sur cet emplacement. Quand, très bientôt, était la seule précision que fournissait le panneau à cet égard.
« Je m'en ferai pas pour ça, » dit Jake. « Ce panneau était déjà là. Il est probablement aussi vieux que... »
À ce moment-là, un bruit de moteur se mettant en route déchira l'atmosphère. Au-delà de la palissade, côté 46e rue du terrain vague, des bouffées de gaz d'échappement marronnasses montèrent, tels des signaux de fumée annonciateurs de mauvaises nouvelles. Soudain, les planches de la palissade de ce côté-là explosèrent sous la poussée d'un énorme bulldozer rouge. Même sa pelle était rouge, bien que les mots balafrant le capot « Vive le roi cramoisi » soient d'un jaune panique. Perché sur le siège surélevé, son visage en putréfaction, les guignons au-dessus des commandes, on reconnaissait le kidnappeur de Jake sur le pont de la Sainte, leur vieux pote gâcheur. Sur le devant de son casque repoussé en arrière, se détachaient en noir les mots « Fonderie Lamerck » surmontés d'un œil ouvert. Gâcheur abaissa le tranchant du bulldozer qui plongea en diagonale dans le terrain vague, écrasant de la brique, réduisant en poussière scintillante bouteilles de bière et de soda, faisant jaillir des étincelles des morceaux de roche. En plein sur sa trajectoire, la rose penchait sa délicate corolle.
« Voyons voir si vous allez poser des questions bêtes, maintenant !» s'écria l'apparition indésirable. « Allez-y !»
exprimez tous vos désirs, mes chers petits couillons, pourquoi pas ? Votre vieux pote gâcheur, il adore les devinettes. Et il y a une chose qu'il faut bien vous fourrer dans le crâne.
Posément tant que vous voudrez, je m'en vais quand même vous écrabouiller cette saleté comme une crêpe, ouais ! Et comment ? Pis, je lui repasserai dessus, mes chers petits couillons. Je lui arracherai les racines et les feuilles, mes couillons, oui, les racines et les feuilles.
Susanna poussa un cri perçant en voyant la pelle écarlate du bulldozer s'avancer et menacer la rose. Eddie empoigna la palissade à pleine main. Il voulait sauter par-dessus, se jeter sur la rose pour tenter de la protéger, sauf que c'était trop tard et qu'il le savait. Reportant son regard vers la chose caquetante perchée sur le siège du bulldozer, il vit que Gasher avait disparu. C'est lui qui était aux commandes à présent. C'était Bob le mécano de Charlie le Chouchou.
« Arrêtez !» cria Eddie. « Pour l'amour de Dieu, arrêtez-vous !»«
Je peux pas, Eddie. Le monde a changé !» Je peux pas m'arrêter, je dois bouger avec lui!
Et comme l'ombre du bulldozer tombait sur la rose, tandis que la pelle arrachait l'un des pieds du panneau, Eddie s'aperçut alors que très bientôt s'était transformé en aujourd'hui. Il prit conscience que le conducteur n'était pas non plus Bob le mécano, mais que c'était Roland. 10. Eddie se redressa en sursaut sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, cherchant l'air comme un perdu, sa sueur déjà glacée sur sa peau brûlante. Il était sûr d'avoir hurlé, il devait l'avoir fait. Mais Susanna dormait toujours à point fermé près de lui. Le haut de ses cheveux dépassait seul du sac de couchage qu'il partageait. Jake ronflait légèrement sur sa gauche, un bras hors des couvertures, serrant ôté. Le bafouilleux dormait, lui aussi. Mais pas Roland. Tranquillement installé près du feu de camp éteint, il nettoyait ses revolvers à la clarté des étoiles en regardant Eddie.
« Tu as fait de mauvais rêves. » Une constatation, pas une question. « Ouais.
Encore une visite de ton frère ?» Eddie fit non de la tête. « Alors, tu as rêvé de la tour ?»«
Du champ de rose et de la tour ?»
Le visage de Roland demeurait impassible, mais Eddie percevait l'impatience subtile qui affectait toujours sa voix quand il était question de la tour sombre. Eddie avait surnommé autrefois le pistolero « l'accro de la tour » et Roland ne s'était pas récrié.
« Pas cette fois. »«
Alors t'as rêvé de quoi ?» Eddie frissonna.
« Fait froid ?»«
Ouais. » « Rends grâce à tes dieux, il n'a pas plu du moins. La pluie d'automne est un mal à éviter chaque fois qu'on le peut. Tu as rêvé de quoi ?»
Eddie hésitait toujours.
« Tu ne nous trahiras jamais, hein, Roland ?»
Personne ne peut répondre à coup sûr à une question pareille, Eddie. « J'ai déjà joué les traîtres plus d'une fois. Ma plus grande honte... Mais je pense que cette époque est définitivement révolue. Nous ne faisons plus qu'un, nous sommes un quatre-têtes. Si je trahis un seul d'entre vous, même le petit ami à fourrure de Jake, peut-être, c'est moi que je trahirai. Pourquoi tu me demandes ça?
Et tu ne trahiras jamais ta quête.
Renoncer à la tour?
Non, Eddie, ça, jamais.
Raconte-moi ton rêve.
Eddie s'exécuta sans rien omettre. Quand il eut fini, Roland baissa les yeux vers ses revolvers en fronçant le sourcil. Il semblait s'être réassemblé tout seul pendant le récit d'Eddie.
Alors ça veut dire quoi que je t'ai vu conduire le bulldozer à la fin? Que je te fais toujours pas confiance? Qu'inconsciemment, c'est de l'eulogie de la psyché? La cabale dont je t'ai entendu parler avec Susanna?
Oui, si on veut.
C'est de la merde, dit Roland pour couper court. Des tartines de merde de l'esprit. Les rêves signifient tout ou rien. Et quand ils signifient tout,
c'est quasiment des messages, d'autres niveaux de la tour. Il regarda Eddie d'un air finaud. Et tous les messages ne nous sont pas envoyés par des amis.
Quelque chose ou quelqu'un fout la merde dans ma tête? C'est ça que tu veux dire?
Je crois que c'est possible. Mais tu dois me surveiller tout pareil. Je supporte qu'on me surveille. Tu es bien placé pour le savoir.
Je te fais confiance, dit Eddie.
Et la maladresse avec laquelle il prononça ces mots les lesta de sincérité. Roland eut l'air ému, presque bouleversé. Et Eddie se demanda comment il avait pu juger que cet homme n'était qu'un robot dénué d'affect. Roland ne débordait pas d'imagination, soit, mais il avait des sentiments.
« Il y a quelque chose dans ton rêve qui m'inquiète beaucoup, Eddie. »
« Le bulldozer ?»«
La machine, oui. Et le fait qu'elle menace la rose. »«
Jake a vu la rose, Roland. Elle était intacte. »
Roland acquiesça. Dans son camp, le camp de ce jour particulier, la rose était florissante.
Ça ne signifie pas que ça durera.
Si le chantier dont parle le panneau s'ouvre, si le bulldozer survient, il existe d'autres mondes, fit Eddie.
Tu te rappelles?
Certaines choses n'existent peut-être que dans un seul. Dans un seul où, dans un seul camp. Roland s'étendit. Le regard tourné vers les étoiles. Il faut que nous protégions cette rose, dit-il. Il faut la préserver à tout prix.
Tu penses qu'il y a une autre porte, hein? Une qui ouvre sur la tour sombre?
Le pistolero tourna vers lui des yeux tout brillants de la lueur des étoiles. Je pense qu'elle ne fait peut-être qu'un avec la tour, dit-il. Et que si on la détruit, il ferma les yeux et n'en dit pas davantage. Eddie demeura éveillé longtemps. 11. Le jour suivant se leva, clair, ensoleillé et froid. Dans la lumière neuve du matin, le machin qu'Eddie avait repéré la veille au soir était nettement plus visible, mais il ne pouvait toujours pas dire ce que c'était. Une devinette de plus et les devinettes, il en avait soupé. Sa main en visière, il observait ce truc en plissant les yeux, encadré par Susanna et Jake. Roland était de retour près du feu de camp, rassemblant ce qu'il appelait leur « gonna », un mot qui semblait recouvrir l'ensemble de leurs biens matériels. Ils ne semblaient pas concernés par la chose devant eux, ni savoir ce que c'était. Ça se trouvait à quelle distance? 50 kilomètres? 80? La réponse était fonction de la distance à laquelle la vue portait sur cette étendue plate, et Eddie ne connaissait pas la réponse. Une chose dont il était tout à fait sûr, en revanche, c'était que Jake avait eu raison au moins sur deux points. C'était une sorte de construction qui s'étalait sur les quatre voies de l'autoroute. Bien obligé. Comment aurait-il pu la voir, sinon? Elle aurait été noyée dans la tramée sans ça. Non? Peut-être que ça se dresse dans une de ces échappées que Suzy appelle les trous dans les nuages, ou peut-être que la tramée se termine avant qu'on arrive aussi loin, ou peut-être que c'est rien d'autre qu'une saloperie d'hallucination. En tout cas, vaudrait mieux que tu te retires ça de la tête pour le moment. On a encore un peu de péagisage à faire. Cependant, le bâtiment retenait toujours son attention. On aurait dit un palais aérien, bleu et or, sorti des mille et une nuits. Sauf qu'Eddie avait dans l'idée qu'il dérobait son bleu au firmament et l'or au soleil levant.
Roland, viens voir une seconde.
Il crut d'abord que le pistolero n'obtempérerait pas, mais Roland, après avoir sanglé d'une lanière de cuir le paquetage de Susanna, se releva et portant les mains au creux de ses reins, il s'étira avant de venir les rejoindre.
Mais Dieu, on croirait que personne à part moi dans cette clique n'a la fibre domestique, dit Roland.
On te donnera volontiers un coup de main, dit Eddie. Comme d'habitude, d'ailleurs, non?
Mais
Regarde-moi d'abord ce truc. »
Roland s'exécuta, mais n'y accorda qu'un regard des plus brefs, comme s'il ne voulait même pas reconnaître l'existence.
« C'est bien en verre, hein ?»
demanda Eddie.
Roland jeta un nouveau coup d'œil.
« J'ai un tweet, » fit-il, ce qui dans sa bouche sonnait comme « M'en a tout l'air, partenaire. »
Là d'où je viens, des buildings en verre, c'est pas ce qui manque, mais la plupart c'est des immeubles de bureaux. Ce truc là-bas, devant.
On dirait que ça sort tout droit de Disney World. Tu connais ?
Non. Alors pourquoi tu veux pas le regarder ?
Demanda Susanna. Roland jeta un nouveau coup d'œil au lointain flamboiement de lumière reflété par du verre, mais encore une fois, brièvement, à peine le temps d'un battement de cils.
Parce que c'est des ennuis en perspective, dit Roland. Et en plein sur notre route.
Nous y serons bien assez tôt, inutile de devancer l'appel.
On y arrivera aujourd'hui ? Demanda Jake.
Roland haussa les épaules, son expression ne trahissant toujours rien.
Il y aura de l'eau, si Dieu le veut, dit-il.
Merde alors, t'aurais fait fortune en écrivant des proverbes pour les crackers, dit Eddie.
Il espérait au moins récolter un sourire, mais Bernick. Roland se contenta de retraverser la route, de s'agenouiller, de se charger de son havresac et de sa bourse, avant d'attendre le reste de la troupe. Une fois fin prêt, ils reprirent leur avancée vers l'est, le long de l'Interstate 70. Le pistolero ouvrait la marche, tête baissée, les yeux fixant le bout de ses bottes. 12. Roland garda le silence toute la journée. Au fur et à mesure que le bâtiment se rapprochait d'eux, des ennuis en perspective et en plein sur notre route, avait-il dit. Susanna comprit que Roland ne les gratifiait pas d'une crise de mauvaise humeur ni d'inquiétude à propos de ce qui les attendait, mais pas le soir même. C'était le récit qu'il avait promis de leur faire qui le taraudait. À l'heure de la pause déjeuner, il distinguait nettement le bâtiment devant eux, un palais à multiples tourelles, taillé entièrement dans du verre réfléchissant, semblait-il. La tramée le cernait de toutes parts, mais le palais s'élevait avec sérénité au-dessus, lançant ses tourelles à l'assaut du ciel. D'une folle étrangeté dans le plat pays du Kansas oriental, c'était certain, mais Susanna se disait que c'était le plus bel édifice qu'elle ait vu de sa vie. Plus beau même que la tour Chrysler, ce qui n'était pas rien. Plus il s'en approchait, plus elle trouvait difficile d'en détacher les yeux. Contempler le reflet des nuages boursouflés cinglés à travers les murailles et les courtines bleues célestes du château de verre, c'était comme assister à un magnifique mirage, doté de consistance. Il vous avait comme ça un petit côté indiscutable. Cela tenait probablement à son ombre portée. Les mirages n'en projetaient pas à ce qu'elle en savait. Mais c'était pas tout. Il se posait un peu là. Un point, c'est tout. Susanna avait beau n'avoir aucune idée de ce qu'un tel prodige fabriquait dans la contrée de Stucky et Hardy, sans parler des Boing Boing Burgers, elle constatait qu'il s'y trouvait, bel et bien. Elle jugea que, le moment venu, elle serait en mesure de répondre aux questions qu'elle se posait. 13. Ils établirent le campement en silence, regardèrent Roland bâtir sa cheminée de petits bois en silence, s'installèrent en silence et en lui tournant le dos, puis contemplèrent le soleil couchant, transmué en palais de flammes, l'énorme édifice vitré sous leurs yeux. Tours et créneaux virèrent du rouge le plus ardent à l'orange, puis à l'or, qui se refroidit rapidement jusqu'à l'ocre au moment où le vieil astre apparut au firmament.
« Bah non !» se dit-elle avec la voix de détain. « C'est pas celle-là, ma fille. Alors ça, pas du tout. C'est l'étoile du Nord. Celle que tu regardais depuis chez toi, assise sur les genoux de ton papa. »
Mais c'était du vieil astre qu'elle se languissait, découvrit-elle. Du vieil astre et de la vieille mère. Elle fut stupéfaite de se découvrir nostalgique du monde de Roland, puis se demanda pourquoi cela devait tant la surprendre. Après tout, c'était un monde dans lequel personne ne l'avait jamais traité de sale négresse, du moins pas encore. Un monde où elle avait trouvé quelqu'un à aimer, et s'était fait de bons amis aussi. Ce dernier point manqua la faire pleurer, et elle serra Jake contre elle. Il se laissa faire en souriant, les yeux mi-clos. Au lointain, déplaisante mais supportable, même sans balle comme Boulkès, la tramée gazouillait son chant plaintif. Quand les dernières heures jaunes s'effacèrent peu à peu du château tout là-bas, Roland les abandonna sur les voies de l'autoroute et revint à son feu. Il fit cuire une nouvelle fournée de viande de daim enveloppée de feuilles et distribua la nourriture à la ronde. Ils mangèrent sans dire un mot. Roland grignota du bout des dents, observa Susanna. Quand ils eurent terminé, ils aperçurent la voie lactée disséminant sur les murs du château devant eux des points lumineux qui s'y réfléchissaient comme dans une eau tranquille. Ce fut Eddie qui finit par briser le silence.
« Rien ne t'y oblige, » fit-il. « Tu es tout excusé, ou absous, ou ce qui te plaira, tout pourvu que tu ne fasses plus cette tête, merde !»
Roland l'ignora. Il but, inclinant l'outre coincé au creux du coude comme un poivreau une bouteille d'absinthe, la tête en arrière, les yeux dans les étoiles. Il cracha la dernière gorgée sur le bas-côté.
« Longue vie à tes récoltes !»
dit Eddie, sans sourire. Roland ne répondit pas, mais son visage pâlit comme s'il venait de voir un spectre, ou plutôt d'en entendre un. 14. Le pistolero se tourna vers Jake, qui lui rendit son regard avec gravité. « J'ai passé l'épreuve de virilité à l'âge de 14 ans. J'étais le plus jeune de mon quatet, de ma classe, si tu préfères. Et le plus jeune qu'il y eut jamais. Je te l'ai raconté en partie, Jake. Tu t'en souviens ?»« À nous tous, tu l'as raconté en partie, » songea Susanna. Mais elle se tut et intima d'un coup d'œil à Eddie de l'imiter. Roland n'avait pas été lui-même pendant son récit. Avec en tête l'image de Jake, à la fois mort et vivant, il luttait contre la folie.
« Tu veux dire quand on poursuivait Walter ?» dit Jake. « Après le relais, mais avant ma chute ?»«
Oui. » »«
Je m'en souviens un petit peu, mais pas grand-chose, comme on se rappelle vaguement ce qu'on a rêvé. »
Roland acquiesça. « Écoute-moi alors. Je vais t'en dire plus cette fois, Jake, parce que tu as pris de l'âge. Je suppose qu'on en a tous pris. » Susanna ressentit la même fascination que la première fois en réentendant l'histoire. Comment le jeune Roland avait surpris par hasard Martin, le conseiller, ou plutôt le magicien de son père, dans les appartements de sa mère. Sauf que rien de tout cela ne s'était produit par hasard, bien entendu. Le garçon serait passé devant la porte de sa mère en lui jetant à peine un coup d'œil si Martin ne l'avait ouverte et invité à entrer. Ce dernier avait dit à Roland que sa mère désirait le voir, mais un seul regard posé sur Gabrielle de Skene assise dans son fauteuil à dossier bas, son sourire mélancolique et ses yeux baissés, signifia au garçon qu'il était bien la dernière personne au monde qu'elle désira voir à ce moment-là. Ses joues empourprées et le suçant dans son cou lui apprirent tout le reste. Martin l'avait incité de la sorte à mettre précocement sa virilité à l'épreuve et, en recourant à une arme, David, son faucon, que son instructeur n'avait pas prévu, Roland avait vaincu Cort, arraché son bâton et s'était fait un ennemi mortel de Martin Largecape. Grièvement blessé, son visage gonflé évoquant un masque de gnome de carnaval, Cort avait eu le temps, avant de sombrer dans le coma, de donner un conseil à son nouvel apprenti pistolero. « Tiens-toi encore quelque temps à l'écart de Martin. » « Il m'a conseillé aussi d'attendre que le récit de notre affrontement devienne légendaire, » dit le pistolero à Eddie, Susanna et Jake, « d'attendre qu'il pousse de la barbe à mon ombre et qu'elle hante Martin dans ses rêves. » «
Et tu as suivi ses conseils ? » demanda Susanna. «
Je n'ai
n'ai pas eu cette chance, dit Roland. Son visage se fendit d'un sourire douloureux. Je comptais bien y réfléchir sérieusement, mais avant que j'en ai eu le temps, les choses ont changé.
Elles ont le chic pour ça, hein ?
Fit Eddie.
Bonté divine, pour ça, oui.
J'ai enterré mon faucon, la première arme que j'ai jamais maniée, et la meilleure peut-être. Puis, et cette partie-là, je suis sûr de ne pas t'en avoir soufflé mot, Jack, j'ai gagné la ville basse. La chaleur de cet été-là creva en une succession d'orages de grêle, et dans une chambre à l'étage de l'un des bordels où Cort avait coutume d'aller faire la noce, j'ai couché avec une femme pour la première fois de ma vie. L'air pensif, il attisa le feu avec un morceau de bois, puis, semblant prendre conscience du symbolisme implicite de son geste, s'en débarrassa et le jeta au loin avec un sourire en biais. Le bout de bois incandescent atterrit près du pneu d'un Dodge Aspen abandonné et s'éteignit. C'était bon. Baiser, c'était bon. Pas aussi extraordinaire que moi et mes amis, on se l'était imaginé quand on parlait entre nous, bien sûr. La jeunesse a tendance à surévaluer la chatte quand on la paie, mon chou. À mon humble avis, dit Susanna. Je me suis endormi en écoutant en bas les ivrognes chanter accompagnés par le piano et le bruit des grêlons contre la vitre. J'ai été réveillé le lendemain matin par... disons d'une façon à laquelle je ne me serais jamais attendu dans un endroit pareil. J'ai écrumé du bois sur le feu. Il flamba haut et clair, rehaussant de couleur les joues de Roland, brossant un croissant d'ombre sous ses sourcils et sa lèvre du bas. Tandis qu'il parlait, Susanna découvrit qu'elle pouvait se représenter ce qui s'était passé ce matin-là, si éloigné dans le temps. Ce matin-là, qui avait dû fleurir le pavé mouillé et la chaleur d'été rafraîchie par la pluie. Ce qui s'était passé dans la chambrette d'une putain au-dessus d'un cabaret de la ville basse de Gilead, siège de la baronnie de la Nouvelle-Canaan, atome de poussière situé dans les régions occidentales de l'entre-deux-mondes. Un garçon, tout endolori encore par son combat de la veille, tout nouvellement initié au mystère du sexe. Un garçon qui avait l'air maintenant d'avoir 12 ans au lieu de 14, dont les cils balayaient les joues, les paupières tirées comme des persiennes devant ses yeux d'un bleu si extraordinaire. Un garçon dont la main épousait négligemment la courbe du sein d'une putain. Un garçon dont le poignet, portant encore les griffures de son faucon, paraissait aller sur la courte pointe. Un garçon dans les ultimes instants du dernier sommeil paisible de sa vie. Un garçon qui sous peu se mettrait en marche et commencerait à dégringoler tel un petit caillou se détachant d'un éboulis en dévale la pente à pic. Petit caillou qui en cogne un autre et puis un autre et encore un autre. Tous ces petits cailloux en cognant plein d'autres encore jusqu'à ce que la pente se retrouve entièrement en mouvement et que la terre tremble sous le vacarme du glissement de terrain. Un garçon... Un petit caillou sur une pente friable est prêt à s'ébouler. Un nœud du bois explosa dans le feu. Quelque part dans ce Kansas de rêve, un animal jappa. Susanna regarda tourbillonner des étoiles devant le visage incroyablement vieux de Roland, distinguant sous ses traits ceux du garçon assoupi par ce lointain matin d'été sur la couche d'une ribaude. Puis elle vit la porte s'ouvrir à grand fracas, mettant un terme au dernier rêve troublé de Gilead. 15. L'homme qui venait d'entrer traversa la chambre à grandes enjambées jusqu'au lit, avant que Roland n'ouvre les yeux, et avant que ce tapage n'ait fait réagir la femme couchée à ses côtés. Il était grand, mince, vêtu d'un jean délavé et d'une chemise bleue poussiéreuse en toile de cambrai. Il était coiffé d'un chapeau gris foncé au ruban en peau de serpent. Des deux étuis en cuir fatigués posés assez bas sur ses hanches, on voyait pointer les crosses en santal de revolvers que le garçon porterait un jour sur des terres dont cet homme à l'air menaçant et à l'œil bleu furieux ne rêverait jamais. Roland fut en mouvement avant même de déceler ses yeux. Roulant sur le flanc gauche, il chercha à tâtons une arme quelconque sous le lit. Il se montrait rapide, d'une rapidité effrayante, mais... Et Susanna vit aussi cela un peu plus clairement,
L'homme en jean délavé fut plus rapide encore. Tirant le garçon par l'épaule, il le précipita au bas du lit entièrement nu. Le garçon étalé par terre de tout son long continua à fouiller sous le lit, vif comme l'éclair. L'homme en jean lui écrasa les doigts sous sa botte avant qu'ils aient pu saisir ce qu'ils cherchaient.
« Salopard !» fit le garçon d'une voix entrecoupée. «
Il avait à présent les yeux ouverts, et en les levant, il s'aperçut que l'intrus, le salopard, n'était autre que son père. La putain se redressait sur sa couche. Elle avait les yeux bouffis, les traits mous, mais la mine courroucée.
« Hélas ! » s'écria-t-elle. « Oh là, doucement ! On n'entre pas comme ça chez les gens, ah ça non ! Attendez un peu que je donne de la voix !»
L'homme l'ignora et retira deux ceinturons dessous le lit. Chacun était terminé par un pistolet dans son étui. Tout imposants qu'ils étaient et des plus stupéfiants dans ce monde où les armes à feu ne couraient pas les rues, ils étaient loin d'égaler les revolvers du père de Roland. Leur crosse était faite de plaques de métal érodées et non de bois incrusté. À peine la pute aperçut-elle les armes que l'intrus arborait sur les hanches et celles qu'il tenait entre les mains, celles-là même que son jeune client de la veille au soir portait jusqu'à ce qu'elle l'emmène au premier et ne le prive de toutes ses armes, sauf de celle avec laquelle elle entretenait la plus grande familiarité, que sa mauvaise humeur léthargique disparut. Ce qui la remplaça fut le regard madré de celle chez qui l'instinct de survie est inné. Elle se redressa, sortit du lit, traversa la pièce, et, le temps d'entrevoir son cul nu sous l'éclat du soleil matinal, avait déjà enfilé la porte. Ni le père se tenant à la tête du lit, ni le fils étalé à poil sur le plancher, ne lui firent l'aumône d'un regard. L'homme en jean tendit à Roland les ceinturons que, la veille dans l'après-midi, il avait pris dans la chambre forte sous le baraquement des apprentis, utilisant la clé de corde pour ouvrir la porte de l'arsenal. L'homme agita les ceinturons sous le nez de Roland, comme l'on montre un vêtement déchiré à un chiot qui vient de le mordiller sans savoir. Il les agita si fort que l'un des pistolets tomba. En dépit de sa stupéfaction, Roland le rattrapa au vol.
« Je te croyais dans l'Ouest, » dit Roland. En Crécy, à la poursuite de Farson et de son...
Le père de Roland le gifla suffisamment fort pour l'expédier à l'autre bout de la chambre du sang plein la bouche. Le premier réflexe, épouvantable, de Roland fut de braquer l'arme qu'il n'avait pas lâchée. Stephen de Skane le dévisagea, main sur les hanches, déchiffrant sa pensée avant même qu'elle ait pris consistance. Ses lèvres se retroussèrent en un rictus dénué singulièrement de gaieté qui lui découvrit toutes les dents et une bonne partie des gencives.
Descends-moi si ça te chante. Pourquoi pas? Allons jusqu'au bout de l'horreur. Oh, mes dieux, j'accueillerai la mort avec joie!
Roland, reposant le pistolet par terre, le repoussa loin de lui d'un revers de main. Tout soudain, il ne voulait plus que ses doigts se trouvent à proximité de la détente d'une arme. Il ne les tenait plus sous contrôle, ses doigts. Il avait découvert la chose pas plus tard que la veille, à l'instant même où il avait brisé le nez de Corte. Père, j'ai subi l'épreuve hier, j'ai pris le bâton de Corte, j'ai gagné, je suis un homme.
Tu es un imbécile, répondit son père. Il ne souriait plus, il avait l'air vieux et hagard. Il s'écroula lourdement sur la couche de la putain, regardant les ceinturons qu'il tenait toujours, puis les laissa choir entre ses pieds. Un imbécile de 14 ans, un imbécile de la pire espèce, désespérant.
Relevant les yeux, il connut un nouvel accès de fureur, mais cela ne dérangea pas Roland, qui préférait la colère à cet air de lassitude, à cette impression de vieillesse.
Dès tes premiers pas, j'ai su que tu n'avais rien de génie, mais jusqu'à tantôt, jamais je n'aurais cru que tu étais un tel idiot. Te laisser mener par lui comme le bétail à l'abattoir. Mais Dieu, tu as oublié le visage de ton père. Avoue !
Ce fut là l'étincelle qui raviva la fureur du garçon.
tout ce qu'il avait accompli la veille, il l'avait fait avec le visage de son père devant les yeux.
« Ça n'est pas vrai !» s'écria-t-il du coin où il se trouvait, cul nu sur le plancher, plein d'échardes, de la bauche, de la putain, le dos au mur, le duvet blond de ses belles joues, sans cicatrices, brillant sous le soleil qui entrait par la fenêtre.
« Si, c'est vrai, sale morveux, schnappant, idiot, bat ta coulpe, ou je vais t'arracher la peau du... Ils étaient ensemble !»
explosa Roland.
« Ta femme et ton conseiller, ton magicien ?» J'ai vu la marque que sa bouche, à lui, avait laissée sur son cou, à elle, sur le cou de ma mère.
Il tendit la main vers le pistolet et le ramassa. Mais même au comble de la honte et de la rage, n'autorisa pas ses doigts à s'aventurer près de la détente. Il tenait son revolver d'apprenti par le canon de métal uni.
Grâce à ça, aujourd'hui même, je mettrai fin à son existence de séducteur et de traître. Et si tu te sens impuissant à me seconder, tu n'as qu'à rester en retrait et me laisser
Stephen dégaina, avant que Roland ait perçu le moindre mouvement. Une seule déflagration assourdissante comme un coup de tonnerre retentit dans la chambrette. Une bonne minute s'écoula avant que Roland n'entende bafouiller des questions et se manifestait un certain tumulte à l'étage en dessous. Entre-temps, son arme d'apprenti arrachée de sa main, où elle ne laissa qu'un picotement frémissant, n'était plus qu'un lointain souvenir. Elle vola par la fenêtre, sa crosse réduite à une ruine de métal salement cabossée, et sa brève participation à la longue histoire du pistolero, trouvant là sa conclusion. Roland, stupéfait, regarda son père, encore sous le choc. Stephen lui rendit son regard et demeura silencieux un bon moment. Mais il avait retrouvé le visage dont Roland se souvenait depuis sa plus tendre enfance, celui qui reflétait une calme et mâle assurance. Sa lassitude et sa fureur teintées d'affolement s'étaient évanouies, comme les orages de la veille au soir. Son père finit par prendre la parole. « J'ai eu tort de te dire ce que je t'ai dit. Je m'en excuse. Tu n'as pas oublié mon visage, Roland. Mais tu n'en as pas moins fait preuve de stupidité. Tu t'es laissé manipuler par quelqu'un de plus rusé que tu ne le seras jamais. C'est par la seule grâce des dieux et de l'œuvre du cas que tu n'as pas été envoyé dans l'Ouest. Un vrai pistolero de moins hors du chemin de Martin. » Hors du chemin de John Farson et de celui qui mène à la créature qui règne sur eux deux. Il tendit les bras. Si je t'avais perdu, Roland, je serais mort. Roland se remit debout et, nu comme la main, se dirigea vers son père qui l'étreignit sauvagement. Quand Stephen Duskane l'embrassa d'abord sur une joue, puis sur l'autre, Roland se mit à pleurer. Stephen Duskane lui chuchota alors six mots dans le creux de l'oreille. 16.
Six mots ? Demanda Suzanne. Lesquels ?
Je sais tout depuis 2 ans, répondit Roland. Voilà ce qu'il m'a murmuré.
Nom de Dieu ! Fit Eddie. Puis, il m'a dit que je ne pouvais pas retourner au palais, que si je passais outre, je serais mort à la tombée de la nuit. Tu es né pour accomplir ton destin, m'a-t-il dit, en dépit de tout ce que Martin pourrait faire. Cependant, il a juré de te tuer avant que tu ne sois assez grand pour lui causer des problèmes. Il semble que, vainqueur ou pas de l'épreuve, tu doives quitter Gilead de toute façon. Pour un certain temps, du moins, et tu iras en direction de l'Est au lieu de l'Ouest. Mais je ne t'enverrai là-bas ni sans amis, ni sans but. Puis, en guise de réflexion après coup, il ajouta « Ni avec une paire de piteux revolvers d'apprentis. »
« Quel but ?»
demanda Jake, que le récit de Roland avait positivement captivé. Il avait les yeux aussi brillants que ceux d'Otay.
« Et quels amis ?»« Vous devez entendre ces choses à présent, dit Roland. Le jugement que vous porterez sur moi viendra en temps et en heure. Il expectera le profond soupir d'un homme confronté à une tâche ardue. Puis rajouta du bois dans le feu. Les flammes, en se ranimant, firent reculer légèrement les ombres. Roland se mit à parler. Il parla toute une nuit d'une longueur insolite et ne termina l'histoire de Suzanne Delgado qu'au lever du soleil, dont les rayons teintèrent là-bas le palais de verre de toutes les nuances d'un jour nouveau, le dotant surtout d'une étrange luminescence verte qui était sa vraie couleur.